Popopienne, Popopien et tous les autres aussi, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui d'un genre littéraire tout à fait original que les éditeurs, dans leur grande sagacité, ont baptisé biographie fictionnalisée. Un genre à cheval donc entre la biographie et la fiction. À cela, vous m'objecterez peut-être que le plus scrupuleux des biographes ne peut, par la force des choses, faire à un moment ou à un autre l'économie de la fiction. La différence entre une biographie et un rapport de gendarmerie, c'est le style, l'écriture et donc un début de flirt avec la fiction. Jean Tullard, membre éminent de l'Académie des sciences morales et politiques, n'a pas connu personnellement Napoléon, ou alors il a menti sur son état civil. Et Fabien Lecoeuvre, lui, a certes rencontré Claude François, mais il n'était pas présent dans ce que la presse a eu tôt fait de baptiser la salle de bain tragique, comme si une salle de bain pouvait être sensible à la tragédie. On l'aura donc compris, la fiction, plus ou moins contrôlée, finit toujours par s'immiscer dans la plus austère des biographies. Mais quid d'une biographie qui s'annonce elle-même comme fictionnalisée, comme ces derniers jours de Marlon Brando dont vient nous parler Samuel Blumenfeld? Ah, alors là, on passe dans une toute autre dimension où se mêlent la rigueur des faits et la licence de l'interprétation, où la littérature rentre en scène subrepticement pour non pas réécrire l'histoire, ce qui est à la portée du premier couillon venu, on en a tous les jours des exemples, mais la faire décoller comme une fusée, et en l'occurrence, nous inviter à un petit voyage spatio-temporel en compagnie d'un des acteurs les plus fous. Oui, Brando méritait bien une biographie fictionnalisée. Samuel Blumenfeld est l'invité de Popopop.
France Inter. Popopop. Antoine de Caunes.
Bonjour Samuel Blumenfeld.
Bonjour.
À mes côtés, celle qui ne supporte pas les gens qui mangent du pop-corn au cinéma, ni ailleurs d'ailleurs.
Je ne supporte pas les gens tout court, Antoine.
Les gens tout
Bonjour.
Court. Bonjour Chaline. Vous allez supporter notre invité, j'espère quand même.
Oui, évidemment.
Bien. Au menu également de Popopop. Attendez. Pomme. La jeune chanteuse Popopop. En live sur la scène de Popopop.
C'est une pomme que vous mangez.
J'en ai de la coincée. Ah ouais. Mais avant ça, Samuel Blumenfeld. Ici, il existe une question encore plus dérangeante que la mort de Marion Cotillard dans Batman. Et cette question, c'est... Pour vous, Samuel Blumenfeld, c'est quoi la pop culture? Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses samuelisées, blumenfidantes, marloneuses et même brandonesques. Et parmi mes préférées, il y a celle de Pedro Almodovar, qui occupait il y a peu le fauteuil sur lequel vous êtes confortablement, enfin du moins je l'espère, assis. Écoutez.
Disons que c'est la culture à laquelle j'appartiens. C'est très clair dans mes films que la coloration de mes films est une coloration purement pop avec des couleurs éclatantes ou parfois des couleurs pastels, mais qui alliées entre elles le sont de façon inhabituelle. Mais le pop et le psychédélique surtout le permettaient. Et je crois que de tous les styles artistiques, c'est celui que j'ai vécu le plus profondément et celui auquel je suis encore le plus attaché.
Eh bien voilà une longue explication. Et pour vous, Samuel Blumenfeld, c'est quoi cette pop culture?
C'est la découverte dans une salle de quartier en banlieue où j'ai grandi, à 9 ans, d'Hercule se déchaîne, un péplum épouvantable, où Serge Gainsbourg jouait le rôle du méchant. Et donc, pendant longtemps, très très longtemps en fait, pour moi, Serge Gainsbourg n'était pas un grand artiste, mais un acteur de péplum. Mmh. Puis un jour, j'ai compris que parfois, il était également chanteur, et pas seulement méchant dans les péplums. Et c'est là que j'ai réalisé en fait que la pop culture, en fait, cet endroit en fait licencieux, vous n'êtes pas censé aller, vous allez presque en cachette de vos parents, ou alors dans mon cas où mes parents me mettaient, parce qu'il fallait bien me mettre quelque part, en banlieue, enfant unique, eh bien cet endroit licencieux en fait, inavouable, vous était en fait une porte ouverte sur le monde, la découverte en fait des grands artistes, là où vous n'êtes pas censé les rencontrer.
C'est une définition magnifique.
Oui, je suis d'accord.
Convient, mais alors,
tout à fait, Antoine.
Tout à fait. Ah non, j'en suis ravi. Merci Samuel Blumenfeld. Eh bien écoutez, la pop, la culture et la pop culture, on va en parler dans la suite de Popopop, juste après Catfish Kate. C'est un morceau du dernier album des Pixies.
Came all the way from Aberdeen to live on my
Catfish Cake, les Pixies, cet extrait de l'album Beneath the Eyrie. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui avec un éminent critique de cinéma. Va-t-il aimer qu'on le critique, ce critique ? Réponse avec son pop portrait. Alors oui, son pop portrait, bah, c'est votre portrait, Samuel, mais...
À base de pop, 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 pop.
Et c'est signé Charline.
Aujourd'hui, un invité dont je ne peux m'empêcher de penser qu'il a ma vie rêvée, car il passe sa vie, ou presque, au cinéma. Alors non, je ne minimise pas l'étendue de la charge que représente la vie de critique de cinéma. Je ne dis pas que sa vie est un long fleuve tranquille, film auquel je suis sûr il n'aura pas manqué d'adosser les qualificatifs adaptés, tout ça pour dire qu'avec ou sans chatiller, cet homme-là passe une partie de sa vie au cinéma, et que quand il n'y est pas, il écrit sur le cinéma, et que quand il ne fait pas ça, il interroge des gens de cinéma, et quand je dis gens, j'entends des réalisateurs, des comédiens avec option renom, et que quand il n'interroge pas ces gens-là, il écrit des livres, et devinez sur quoi ?
Le cinéma ?
Oui, Brando ou De Palma. Alors certes, vous m'objecterez que sa vie fait plus ou moins rêver en fonction du film à visionner. Tous les jours ne sont pas faits de Projo, de Tarantino ou de Parasite. Hein. Il y a toujours un Antoniente qui traîne. N'empêche que je vous le dis, Samuel Blumenfeld, j'envie parfois vos activités.
La vie de critique de cinéma n'est pas un long fleuve tranquille, Samuel Blumenfeld ?
Non. Je pense en fait que votre vie de critique de cinéma devient meilleure, s'améliore, le jour en fait où vos yeux enfin se braquent de manière dramatique et précise sur un endroit de la salle. Cet endroit de la salle, c'est cette espèce de rectangle où il y a écrit « sortie de secours ». Et quand vous comprenez enfin que la sortie de secours est la sortie tout court, et en fait la fenêtre sur votre vie, qu'en fait que vous ne parlerez du cinéma que le jour où vous comprendrez qu'il est impératif de sortir de cette salle et de vivre votre vie, pas seulement de la rêver, à partir de là, tout va bien.
Tout va pour le mieux. Tout ça rentre.
Ça va, c'est éclairé.
Bien, Samuel Blumenfeld, sera-t-il plus question de Tarantino ou d'Antoniente dans la séquence qui va suivre ? Réponse avec votre pop list. Oh. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. Pour le livre, votre choix s'est porté sur Vie et Destin de Vassili Grossman, paru en 1980. Charline, je vous le dis avant que vous ne me posiez la question, on est très loin ici des livres de développement personnel qui encombrent votre bureau. Il s'agit même, autant le dire tout de suite, d'un pur chef-d'œuvre. Mais rappelez-nous qui est ce Vassili Grossman.
Un écrivain soviétique, correspondant de guerre, envoyé à Stalingrad en 1942, puis sommé d'en partir, et ceci n'est vraiment, vraiment que le début.
Samuel Blumenfeld, auriez-vous la gentillesse de nous en lire quelques lignes à défaut de la totalité, l'ouvrage comptant pas moins de 800 pages.
L'homme ne comprend pas que les villes, créées par lui, ne sont pas partie intégrante de la nature. Il ne peut pas se permettre de lâcher son fusil, sa pelle ou son balai, s'il veut défendre sa culture contre les loups, les tempêtes de neige et les mauvaises herbes. Qu'il baille aux corneilles, qu'il se laisse distraire un an ou deux, et c'est terminé. Les loups sortent des forêts, le chardon fleurit, la ville croule sous la neige, disparaît sous la poussière. Combien de grandes capitales ont péri sous la poussière, la neige ou les broussailles ?
Extrait de Vie et Destin de Vassili Grossman, lu par Samuel Blumenfeld. C'est donc son choix littéraire. Pourquoi avoir choisi ce livre-là plutôt que, je ne sais pas, Les Mémoires d'une fripouille de George Sanders, le livre de chevet de tous les cinéphiles qui se respectent?
C'est par ailleurs, au passage, un livre absolument magnifique. Je parle de George Sanders, qui est un livre, en fait, qui ne me fait pas rire, en fait, que je m'explique. George Sanders est un personnage de dandy, enfin, il y a quelque chose de baudelairien, d'absolument baudelairien chez lui, sauf que
C'est l'anti-Brando.
C'est absolument l'anti-Brando, mais c'est en fait quelqu'un qui, derrière ce dandisme, cachait une tragédie intime et une authentique spleen. Donc, en fait, ces mémoires d'une fripouille, je les ai toujours lues comme les mémoires d'un dépressif.
Vous avez tout à fait raison. Mais pardon, je vous distrais de Vassili Grossman.
Maintenant sur Vassili Grossman, c'est le roman qui me permet de comprendre le XXe siècle. Au sens où le XXe siècle est victime de deux totalitarismes, le totalitarisme, bon, le nazisme et le communisme. Sur un plan intime, en fait, une œuvre d'art, que ce soit un roman ou un film, c'est aussi ce roman-là qui, par sa fresque, par la description qu'il fait du génocide des Juifs en Union soviétique, c'est un roman qui me permet de comprendre, en fait, ce que mes parents et grands-parents ont vécu et ce dont mes parents avaient tant de mal à me parler. Or, les œuvres d'art, enfin, si nous dialoguons avec un film ou avec un roman, c'est tout simplement parce que ce dialogue vous permet d'obtenir une histoire et des informations que vous ne pouvez pas avoir autrement par vos parents. C'est que, justement, ces œuvres cultes, en fait, sont cultes pas dans l'absolu, mais parce que, tout simplement, parce que dans notre cas, elles racontent notre intimité.
Parfait. Passons au cinéma. Tiens, pour le film, vous avez choisi Le Cercle Rouge de Jean-Pierre Melville, sorti en 1970. Alors Charline, je vous fais une confidence.
Oui.
Je ne peux pas voir ce film sans avoir les larmes aux yeux.
Oh.
C'est le dernier rôle de Bourvil et j'adorais Bourvil. Mais assez parlé de moi. Dites-nous pourquoi ce cercle est rouge plutôt?
Parce que c'est la couleur de la craie avec laquelle est tracé le dit cercle, celui qui donne son titre au film. Et allez-y maintenant, pleurez.
Ceux qui ont rendez-vous à l'intérieur de ce cercle ne manqueront pas de s'y retrouver pour y vivre ou pour y mourir.
Alors pourquoi ce cercle rouge de Jean-Pierre Melville parmi les 965 767 films que vous avez vus au cours de votre film, Samuel Blumenfeld?
Parce que c'est un film, en fait, d'abord, c'est de l'ordre de la pulsion d'abord. C'est que c'est un film que j'ai besoin de revoir plusieurs fois par an. C'est peu à peu un film qui s'est inscrit dans le quotidien de mon existence. Alors, pour quelle raison? Parce que c'est un film qui rêve le cinéma. C'est le film d'un réalisateur français, peut-être le plus grand, à mon sens, de l'après-guerre, mais qui rêve le cinéma américain. Et qui raconte aussi l'impossibilité de faire ce cinéma américain en France. Mmh. Et cette impossibilité naît une des œuvres les plus singulières du XXe siècle. Donc c'est une sensibilité dont je suis très proche. Un autre élément, c'est la présence d'Alain Delon. C'est le partenariat Jean-Pierre Melville, Alain Delon, du samouraï à un flic en passant par le Cercle Rouge. Or, Alain Delon, avec Steve McQueen, est l'acteur qui guide mon existence. Quand je dis qui guide mon existence, c'est que tout simplement, une star de cinéma, c'est pas quelqu'un que vous admirez, contrairement aux clichés habituels. C'est quelqu'un qui vous éduque. Parce que tout simplement, aller voir des films, c'est prendre du plaisir, mais c'est également prendre une leçon de vie à chaque fois. Or, ces leçons de vie m'ont été administrées le plus souvent par Alain Delon. Donc, lorsque je revois Le Cercle Rouge, ce que je découvre, c'est un père de tutelle à chaque fois.
Exactement comme la littérature vous éclaire sur un discours qu'on n'a pas pu vous tenir.
Absolument. La littérature vient combler les silences dont j'ai été victime.
Bien. Passons à la série. Pour la série, je prends la mythique Lotus 7, car vous choisissez Le Prisonnier, une série créée par George Markstein et Patrick McGowan, diffusée entre 67 et 68. Charline, ce prisonnier, de quoi l'est-il? Est-ce de l'amour, comme Lotus?
Oh, je ne crois pas, non, je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Plutôt d'une sorte de société ultra secrète qui l'enferme dans un village clos, et il n'aura de cesse de répéter qu'il n'est pas un numéro.
The Prisoner, starring Patrick McGowan. What's it all about?
Sit down and I'll tell you.
I don't know who you are or who you work for.
I will not make any deals with you. I've resigned. I will not be pushed, filed, stamped, indexed, briefed, debriefed, or numbered.
Northern area, number 6, heading for outer zone in our vehicle. Orange alert.
Escape or capture? Watch this exciting adventure of The Prisoner.
Alors Samuel Blumenfeld, vous faites partie avec le groupe de métal Iron Maiden, des fans de la série sur cette planète pop. Est-ce que ça veut dire que vous êtes banguier sur le générique en ouvrant des bières avec les dents, vous aussi?
Ah, pas du tout. Et je refuse fermement le parrainage d'Iron Maiden. Ils ont le droit d'aimer, ouais. Mais pas eux, ils ne peuvent pas s'approprier, peuvent pas se l'approprier. C'est pas donc réellement là-dessus, c'est j'affiche mon strict désaccord.
Alors dites-moi pourquoi vous vous l'appropriez.
Pourquoi je me l'approprie? Cette série d'abord, elle porte l'empreinte des 60s. Elle porte l'empreinte du Swinging London. En fait, donc d'une période très heureuse de croissance et de libéralisation des mœurs. Sauf que au milieu de ça, au milieu, on va dire, de ce qui est posé comme une des périodes les plus joyeuses de l'histoire de l'humanité, vient s'insérer Kafka, vient s'insérer l'idée que même là, même au moment le plus heureux de notre histoire, eh bien, nous sommes prisonniers. Et c'est cet acteur-là, Patrick McGowan, qui fait une carrière quand même relativement modeste au cinéma, oui, en fait, mais qui laisse sa trace dans l'histoire du cinéma, enfin, ou des images, avec cette série. Donc l'idée que on se retrouve dans un village, dans ce qui est la fiction kafkaïenne par excellence. Alors, pourquoi me frappe-t-elle, en fait? Pourquoi me frappe-t-elle? Parce que je suis, moi, né dans les années 60, en fait, j'appartiens, mais vous aussi, Antoine, nous appartenons à la génération de la disette. Mmh. Une génération où on était sujet à l'ERTF, et donc il y avait des choses à voir, mais pas tant de choses, pas tant de choses que ça. Et donc, au milieu du désert télévisuel que pouvait être parfois l'ERTF, surgissait cette série, qui était mais ô combien singulière. Et encore une fois, cette série, je ne regardais pas avec une bière, parce que d'abord je ne bois pas d'alcool, mais c'était la série que mes parents regardaient. Mmh. C'était la seule chose que mes parents regardaient à la télévision, mais ils ne la regardaient pas comme un bon moment à passer, mais comme un documentaire à regarder. Et donc, à chaque fois, mes parents me disaient « Regarde ce qui se passe sur Terre ». Donc cette série-là, en fait, je la regardais comme un documentaire sur la condition humaine. Et je me suis toujours demandé pourquoi mes parents me présentaient cette œuvre ô combien stylisée comme un documentaire sur la condition humaine. Ça m'a pris plusieurs décennies, mais j'ai fini par comprendre pourquoi. Ce qu'ils me racontaient, enfin, ce qu'ils cherchaient à me faire passer, c'était ce qu'ils avaient vécu, eux aussi, à leur manière.
Très bien, dites-moi, vos parents sont très présents dans vos choix de pop-list. On va terminer avec cette pop-list avec votre chanson culte. Et cette chanson, alors là, ce n'est pas vos parents, je pense, c'est celle-ci. Mama, I got a brand new thing. Non, je ne vous parle pas, Charline. C'est un groupe qui s'appelait The Indisputed Truth.
Ça vous apprendra à m'appeler Mama.
En 72. Alors expliquez-moi, Samuel, pourquoi ce choix dans l'écurie Motown, ce groupe particulièrement méconnu, on va dire, qui était l'œuvre de Norman Whitfield, un grand producteur de l'époque.
Absolument, producteur génial, ouais. Producteur génial. Mes goûts musicaux sont extrêmement précis. C'est musique soul, 1969-1976. Donc, il y a un moment où cette musique devient extrêmement politisée. Mmh. Et alors qu'elle devient politisée, elle est également symphonique, mmh, avec beaucoup de cuivre. Donc, c'est ce son-là que je recherche et que j'écoute toute la journée. Et je n'écouterai que ça. Enfin, je veux dire, c'est pas je n'ai écouté que cela, et je n'écouterai pratiquement jamais rien d'autre. Parce que je suis un peu obsessionnel, oui, quand même. Oui, j'ai un côté un peu obsessionnel. Oui, oui. Donc, si vous voulez, c'est à peu près, si vous voulez, sur le plan de mon horizon musical, c'est 1969, 1976, et je ne sortirai plus jamais de cet espace-temps.
Vous n'aimez pas Bruce Springsteen?
J'aime énormément Bruce Springsteen, mais encore une fois, c'est pas mon horizon. Mon horizon, c'est chante voix noire, mouvement d'émancipation, mm-hmm, et très forte orchestration avec beaucoup de cuivre. C'est comme ça, je ne changerai jamais.
Eh bien, vous avez compris, Charline?
Oui, c'était une provocation gratuite.
Je sais, c'est comme ça que je l'ai prise. Alors, je résume Vie et Destin, Le Cercle Rouge, Le Prisonnier et Mama, I Got a Brand New Thing. Non, c'est pas à vous que je parle, Charline. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça donne ça.
The Prisoner, starring Patrick McGoohan.
Ceux qui ont rendez-vous à l'intérieur de ce cercle.
What's it all about?
Sit down and I'll tell you.
I don't know who you are or who you work for.
Mama got me a guitar.
I will not be pushed, filed, or numbered.
Mama got the burning deep down inside.
Qu'il baille au corner, qu'il se laisse distraire un an ou deux, et c'est terminé.
Ceux qui ont rendez-vous à l'intérieur de ce cercle.
Watch this exciting adventure of the prisoner.
Ils ne manqueront pas de s'y retrouver pour y vivre ou pour y mourir.
C'est bon, vous y retrouvez vous-même, Samuel Blumenfeld?
Ah, complètement. Complètement. C'est moi.
C'est vous. C'est moi. C'est en tous les cas une introduction. Samuel Blumenfeld, avant de parler de Marlon Brando et de cinéma, voici un petit plaisir. Un de vos groupes fétiches dont nous parlions il y a un instant et qui signe cette reprise bien psychée de Papa Was a Rolling Stone. Non, c'est pas à vous que je parle, Charline. C'est Undisputed Truth.
Ça vous apprendra.
September, that day I'll always remember. Yes, I will, 'cause that was the day that my daddy died. Papa died when we were there young. I never got a chance to see him. I never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Looked up and said, son, Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home.
And when he died,
oh, he left us was alone.
Hey, Mama, is it true what they say that Papa never worked a day in his life?
Some talk about Papa doing some storefront preaching, talking about saving souls and all the time leeching,
stealing in dirt
and stealing in the name of the Lord. Mama just looked up at me. Your Papa was a rolling stone, yeah. Wherever he laid his hat was his home.
Mama,
folks say Papa
never was much on thinking. Spend most of his time chasing women and drinking. Mama, I'm depending on you to tell me the truth.
With tear-filled eyes, Mama, I hate to say,
Papa was a rolling stone, son. Wherever he laid his hat was his home.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine Decaune.
Books, Delon et Al Pacino sont les premiers résultats qui tombent quand on tape votre nom sur Google, Samuel Blumenfeld. Même pas de nu. C'est triste, hein. Bon, alors, ok, parlons de cinéma. Samuel Blumenfeld, vous êtes une des plumes les plus subtiles de la critique cinéma au journal Le Monde depuis 1997, grand reporter au Monde 2, directeur de la collection Soul Fiction aux éditions de l'Olivier et par ailleurs romancier et disons historien du cinéma. Publiez donc chez Stock cette fameuse biographie fictionnalisée dont je parlais en début d'émission et je vous propose qu'on commence par affiner la définition que j'en donnais. Où commence la biographie, où s'arrête la fiction?
En fait, la fiction commence à partir du moment, en fait, où vous posez votre regard sur la personne que vous rencontrez. Mmh. Alors, ça, je parle dans ma pratique professionnelle, mais le simple fait de poser votre regard, en fait, signifie que vous prenez un angle. Il me semble, lorsque vous faites le portrait d'un acteur, du moins lorsque je fais le portrait d'un acteur, je m'installe dans une position. Je prends le parti de la fiction, c'est-à-dire que je vais raconter une histoire. Je verrai, sinon ça ne fonctionnera pas.
Vous ne cherchez pas l'objectivité.
Ça n'a aucun sens. Sinon, dans ce cas-là, vous allez rapporter des propos, ce sera tiède et le lecteur ne prendra aucun plaisir. Donc, il est impératif de prendre un angle et de raconter une histoire. À partir du moment où vous faites ça, vous faites entrer la personne que vous rencontrez dans la fiction.
Mais est-ce que ce n'est pas aussi une manière de vous raconter, vous? Autrement dit, quel pourcentage du narrateur de ce roman est fantasmé?
Ah, dans ce...
Ouais, dans les derniers jours de
Marlon. C'est mon alter ego.
Ouais.
C'est véritablement mon alter ego. C'est-à-dire que si vous voulez, c'est moi. Il n'y a aucun mensonge là-dessus.
Je parlais de biographe tout à l'heure. Jean Tullard n'a jamais rencontré Napoléon. Avez-vous croisé, vous, la route de Marlon Brando?
Jamais. Jamais. Jamais, mais en même temps, toujours, en permanence, puisque j'ai grandi avec lui, comme vous, Antoine. Oui. Et cette rencontre effectuée à un âge relativement jeune, c'est toujours poursuivi. Mmh. Et ensuite, lorsque je me suis mis à écrire, bah, j'ai rencontré Brando dans une autre dimension, mais je l'ai rencontré pour de bon, dans cette dimension merveilleusement enrichissante qu'est la fiction.
Alors, Samuel Blumenfeld, imaginons que je suis Marlon Brando. Oui, bon, ok, d'accord. Fermez les yeux, on est à la radio. J'entre dans ce studio, je m'assois en face de vous. Que me dites-vous?
I'm listening to you.
Je vous dis d'abord que je suis très heureux de poursuivre. Je ne vous dis pas que je suis heureux de faire votre connaissance, parce que ça fait déjà longtemps qu'on se connaît. Je suis content, en fait, de vous voir pour la première fois de visu. Mais en fait, c'est une autre manière de poursuivre notre relation, mais à peine différente, en fait.
Est-il vrai que le livre a commencé à germer quand vous avez appris l'existence de trois masterclass données par le maître monstre, intitulées Lying for Living, donc Mentir pour Vivre, données au début des années 2000? Comment est-ce que vous avez pris connaissance de ces masterclass?
Elles avaient été décrites dans la presse professionnelle américaine. Ça avait commencé à germer. Et à ce moment-là, et ce qui me frappait dans ces masterclass, c'était bon, d'abord, il y avait, une fois encore, on comprenait que Brando méprisait au plus haut point le métier d'acteur. Donc ce métier pour lequel il était génial. C'est le drame de sa vie.
Lying for living.
Voilà, mentir pour vivre, voilà. Et donc ces masterclass, quand même déjà, faut imaginer quand même ce qu'est la mise en scène opérée par Brando. Elles ont lieu sur Sunset Boulevard, dans un hangar. Il y a une partie, ce sont des amis de Brando, donc des stars de cinéma, DiCaprio, Sean Penn, Nick Nolte. Et une autre moitié, ce sont des clochards pris dans la rue, ce qui n'est pas très difficile à Los Angeles. Mais déjà, on se dit... Qu'est-ce que c'est que ce séminaire? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Surtout en plus lorsque Brando vient sur scène administrer non pas ses cours mais ses considérations sur le métier d'acteur, mais il vient sur scène habillé en grand-mère et maquillé. C'était une vieille habitude chez Brando. Mmh. Si vous voyez Missouri Breaks, Arthur Penn, donc 1976, Brando est dans une scène habillé en grand-mère. Alors que quand même, attention, il ne joue pas une grand-mère dans le film, mais il joue quand même un chasseur de primes. Hein. A priori, bon, vous êtes chasseur de primes. Moi, j'ai pas d'expérience. Peut-être vous non plus.
Non.
Comme ça, si vous demandez, moi, les chasseurs de primes sont rarement habillés en grand-mère. Mais Brando, oui. Mais ce qui me frappe le plus, en fait, c'est ça qui me donne envie de, qui fait que je me dis ce roman, je vais l'écrire, je dois l'écrire. C'est que j'apprends que le projet de Brando, c'est de commercialiser ses masterclass sur un site qui se sera appelé marlonbrando.com. Il voulait le commercialiser avec d'autres choses, des autographes. Et aussi des brevets qu'il avait déposés, donc un brevet antisismique, un autre brevet aussi, une méthode pour tendre les pots de tambour, parce qu'il faisait du conga.
Oui.
Des bongos.
Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est-à-dire qu'en fait, vous avez le plus grand acteur de l'histoire du cinéma, ou l'un des plus grands, on se dit, l'acteur de Sur les quais d'un tramway nommé Désir, du Parrain, qui tout d'un coup, en fait, dans ces dernières années, a, si je puis me permettre, besoin de thunes.
Ouais.
Il est en manque de liquidité. Ouais. Il est fauché. Et là, tout d'un coup, je me dis, bon, dans ma vie, j'ai pas de lien. Enfin, je veux dire, rien ne me relie à l'acteur de Sur les quais. En revanche, un individu en manque de liquidité, donc sorti tout d'un coup d'un roman d'Albert Cohen, Manche-Clou, là, par contre, j'ai plein de choses en commun. Ça, je dois l'écrire parce qu'en fait, personne ne saura l'écrire. Bien sûr, bien évidemment, plein de personnes peuvent l'écrire. Mmh. Mais vous ne pouvez pas écrire un livre si vous ne dites pas que, en fait, que vous êtes le seul à pouvoir le faire comme ça.
La voix de Marlon Brando, difficile d'en faire l'économie aujourd'hui. Hein. Pour mémoire, elle sonnait comme ça dans Apocalypse Now.
Have you ever considered any real freedoms? Freedoms in the opinion of others?
Une forme de douceur, de lenteur, et du coup, on ne peut s'empêcher de la comparer à celle qui lui a été attribuée en français.
Avez-vous jamais envisagé ce que serait une liberté réelle ?
Une voix beaucoup plus chargée en testostérone, est-ce que ça fait partie des grosses méprises sur Brando ?
Ah mais complètement, complètement, c'est terrible cette voix française. Alors, on va pas incriminer l'acteur, c'est pas sa faute. Oui. Mais la voix de Brando, c'est une signature vocale, cette voix nasillarde. Elle n'est pas, vous ne pouvez pas la...
Cette espèce de murmure, de mumbling, hein, comme
possible.
Disait Sinatra.
En plus, justement dans cet écrit d'Apocalypse Now, ce que l'on comprend lorsqu'on développe une intimité avec Brando, c'est qu'en partie, Brando fait son film à l'intérieur du film de Coppola. D'une certaine manière, il affiche son extrême distance avec le métier de comédien. Et cela repose à la fois sur sa signature vocale, sur son phrasé, sur cette manière de lâcher les mots comme on s'abandonne et comme on dirait « Si ça se trouve, de toute façon, dans 5 minutes, je ne parlerai plus jamais à personne. » Donc cela, vous ne l'avez pas dans la version française. C'est terrible. C'est comme prendre une toile de maître et en changer la couleur. C'est exactement ce qui arrive là.
Brando a des héritiers hein, dans le cinéma, évidemment les Pacino, les De Niro, et surtout, à vous en croire, Daniel Day-Lewis. Tous américains, donc.
Alors, sauf Daniel Day-Lewis.
Oui.
Sauf Daniel Day-Lewis.
Anglo-saxon.
Il a des héritiers au sens où plutôt, il crée des vocations. On va dire sa méthode de travail, son extrême rigueur en fait, quand il veut bien s'y mettre, mais cette extrême rigueur crée des émules et crée des élèves au sens où on dit dans la Renaissance les maîtres avaient des élèves, c'est dans ce sens là. Mais sinon, ça peut passer pour un cliché, mais Brando est inimitable. Ce qu'il fait, personne d'autre ne pourra le refaire.
Alors par exemple, arrêtez-moi si je me trompe, vous n'avez ni intérêt ni affection particulière pour un comédien comme Leonardo DiCaprio. Vous l'attendez, non, j'aime beaucoup ce « ah ».
brièvement, Samuel.
Écoutez, en fait, il y a un parti pris, mais si on n'a pas de parti pris, c'est pas intéressant. Alors si vous voulez, Leonardo DiCaprio est quelqu'un qui imprime la pellicule et un acteur qui s'avère régulièrement remarquable à l'écran. Maintenant, il y a une chose qui me gêne, Et là, j'assume mon parti pris. C'est que c'est quelqu'un qui est devenu une quasi-star dès le début, sans passer par le moindre chemin de traverse. C'est pas quelque chose dont je suis jaloux, mais c'est quelque chose en fait que je ne comprends pas et qui ne m'intéresse pas. Je suis moi passionné par des comédiens qui ont eu des chemins de traverse, qui ont eu un vécu avant d'enfin s'installer à l'écran. Donc du coup, je ne comprends pas ça et j'ai envie de le punir. Alors que quand je pense à Delon, passé par l'armée, quand je pense à McQueen qui est pratiquement un fils de prostituée, qui est abandonné par son père, qu'il n'a pratiquement jamais rencontré, bah là, je m'y retrouve. Là, je suis chez moi.
Un peu de souffrance.
Mais il n'y a pas que dans le roman que vous le punissez, hein, d'ailleurs, si je peux me permettre.
Non, il m'est arrivé de le punir dans les colonnes de mon journal, je sais.
Bien, c'est un livre absolument fascinant que ces derniers jours de Marlon Brando, de Samuel Blumenfeld, et c'est édité chez Stock. Samuel, vous ne bougez pas, on va terminer cette émission avec vous. Est-ce que vous savez faire ça?
Non, oh, pas bon.
Si.
Pas
bon. C'est un pop mat.
Pas si, bon. C'est un pop assez mat.
Oui, mais j'ai jamais été avec ma joue comme ça. J'ai jamais été très adroit.
Vous n'avez jamais été adroit avec votre joue. Je vous cite donc.
Bien. On se demande assez rarement aux gens en même temps.
Non, c'est vrai. C'était pour lancer les pop news.
Est-il vraiment trop tôt pour songer au cadeau de Noël? Non, je ne crois pas, et c'est bien pour ça que je me permets de vous conseiller The Rolling Stones on Stage, un coffret livre Blu-ray signé Bruno Jufin et préfacé par notre camarade Mishka Assayas. Un coffret regroupant un ouvrage de 200 pages illustrées de plus de 100 photos rares à inédites, une compilation de 16 titres majeurs qui ont influencé le groupe, de Muddy Waters à Otis Rush en passant par Chuck Berry, et Shine a Light, le film de Martin Scorsese, en Blu-ray, un très beau coffret chez GM Éditions en association avec Carlotta Film.
Comment des femmes journalistes ont réussi à briser la loi du silence pour dénoncer l'inacceptable? C'est un film, mais adapté d'une histoire vraie, celle de la chaîne Fox News et du scandale lié à son dirigeant Roger Ailes, accusé de harcèlement sexuel par plusieurs journalistes de la chaîne. Le film s'appelle justement Scandale et au casting, on retrouve Nicole Kidman, Margot Robbie et Charlize Theron dans le rôle de Meghan Keane.
You may have heard there was a dust-up involving yours truly and presidential contender Donald Trump.
There was blood coming out of her eyes, blood coming out of her wherever.
Oh my God, did he just accuse me of anger menstruating?
Wait, am I going to be the story?
No.
No. I'm going to be the story.
No.
Scandale de Jay Roach, ça sortira le 22 janvier.
Une excellente nouvelle pour les fans des Bristoliens furieux d'Idols. Lors de leur précédente et colossale tournée, le groupe avait fait étape à Paris dans un Bataclan complet le 3 décembre 2018 et ils ont décidé de graver cette soirée unique sur DVD ou sur tout autre support qui vous sied. Un album live dont ils ont livré un avant-goût avec leur Mother. A Beautiful Thing, Idols Live at le Bataclan, ça sortira le 6 décembre.
France Inter. Pop-pop-pop. Antoine Decaulle.
Oh, c'est moi!
Le chanteur d'Idols.
Mais oui, évidemment, oui, bravo Charline. Samuel Blumenfeld, avant d'accueillir la chanteuse Pomme, écoutons le groupe indien Redbone. Indien, parlons Brando. Mais oui, la connexion est là,
sûr.
Oui, avec ce morceau Crazy Cajun Cakewalk Band.
Close to Mobile, Alabama, lies a swampland territory. You can hear the bullfrog run to the bog. I got to pull you under my roof. Saturday night, I've been feeling all right. I'm headed toward the Snake Road. I got a little money, gonna spread some honey. Gonna get it on all night, digging that crazy Cajun cakewalk band. Crazy Cajun cakewalk band. Rhythm is as heavy as a ton of lead. Redbone baby's gonna do your head. Thank you.
see you do it. Let me see you do the grand bon jet. Papa's got it going, mama's got it going, baby sister's had it going for years. Saturday night I've been feeling alright, headed toward the Snake Road. Got a little money, gonna spread some honey, gonna get it on all night. Digging that crazy cakewalk band, digging that crazy cakewalk band. Rhythm is a heavy as a ton of lead. Redbone mama's gonna do your head.
Redbone, Crazy Cajun Cakewalk Band. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes toujours en compagnie de Samuel Blumenfeld et vient de nous rejoindre Pomme. Bonjour Pomme.
Bonjour.
Vous êtes une fille, vous vous appelez Pomme, ça fait de vous une pom-pom girl?
Pas tout à fait, mais c'est bien tenté.
Merci Charlie de me soutenir dans ces cas-là. Pomme, en réalité, ça vient de votre nom, car vous vous appelez Claire Pommet dans la vraie vie. Et vous dites au sujet de ce surnom, de point ouvrir les guillemets, ce sobriquet qui m'apparaît en définitive assez naturel correspond à mon identité. Quant au jeu de mots qu'il peut inspirer, j'imagine que seuls les mauvais journalistes céderont à la facilité. Rassurez-moi, ne cède pas à la facilité là.
Non, j'étais un peu énervée parce que sur mon premier album, tous les titres d'articles, mais en même temps, je comprends et je pense que ça se calmera. Mais en tout cas, ça m'énervait un peu, mais c'était toujours mignon et bienveillant.
À moins que vous ne me considériez comme un mauvais journaliste, moi-même.
Pas du tout, pas du tout.
Croquer dans la pomme, c'est en même temps aussi le péché originel. Est-ce qu'il y avait un rapport ?
Non, en fait, vraiment, mes potes de collège m'appelaient pompote parce qu'on mangeait des petites pompotes, les petites compotes à boire. Et du coup, quand j'ai commencé à réfléchir à avoir un nom de scène, parce qu'au début, je m'appelais juste Claire, je trouvais ça assez naturel et je me disais que ça me correspondait et que s'il fallait que ça me suive toute ma vie, c'était OK, quoi.
Alors, Pomme, ici, on baigne dans le jus de pop culture, hein, le fameux jus de pomme. Et vous, la pop
jusqu'à
culture,
la fin, hein,
vous aimez la détourner problème. Pour en faire des covers sur votre chaîne YouTube. Ça donne ça. All around, the wind blows, we would only hold on to let go. Though we kiss, fake, and we need someone to lean on. Ever since I left the city,
la vie nous sépare, celle qui te redonnera l'espoir. On laissera rien au hasard, car tu sais que je resterai.
Alors, on a reconnu Lean On de Major Lazer, Hotline Bling de Drake et Ta meilleure amie de Laurie. Comment choisissez-vous vos covers ?
Alors, pour celles que j'ai faites avec Wax, les deux premières, on les choisit ensemble et c'est tout le temps un peu des espèces d'énormes tubes qu'on refait plus acoustiques. Et c'est assez marrant parce que c'est tellement loin de ce que je fais moi que à chaque fois ça m'emmène dans des trucs où à chaque fois je me rappelle que c'est des, je sais pas, genre du R&B ou de l'électro et c'est toujours assez drôle. Et quand c'est des covers plus acoustiques, c'est des choses, j'aime bien reprendre des chansons que j'écoutais quand j'étais très jeune comme les chansons de Laurie ou des chansons de Barbara, rien à voir, mais des chansons d'enfance un peu.
Mais justement cet exercice de la reprise, en quoi est-ce qu'il a nourri vos albums perso?
Bah moi j'ai commencé par ça comme beaucoup je pense de ma génération parce qu'on avait tous accès à YouTube et tous accès à l'ouverture d'une chaîne YouTube et je pense que au départ on reprend les choses qu'on écoute ou les choses qu'on aime et qui nous inspirent et je pense qu'en reprenant des chansons j'ai un peu appris à jouer de la guitare, j'ai un peu appris à chanter, enfin c'est ça m'a complètement formé sur tous les plans quoi.
En fait, c'est votre pop culture à vous.
Un peu, c'est vrai.
Quand vous reprenez du Laurie, vous aviez 5 ans au moment où la chanson
exactement,
est sortie.
Exactement, oui. Et YouTube aussi, ça fait partie de mon enfance et de mon adolescence.
Alors, Pomme, vous faites partie de la génération Laurie et Priscilla et vous avez baigné dans les vinyles de Polnareff grâce à votre père. Aujourd'hui, vous êtes de quel côté? Plutôt team Polnareff ou team Laurie Priscilla?
Bah, disons que Laurie et Priscilla, j'ai énormément d'amour et d'affection pour elles. Et Paul Naref, c'est très différent parce que c'était pas mon idole, mais par contre, je trouve que sa musique est complètement incroyable et j'en écoute très régulièrement encore aujourd'hui. Et donc, c'est deux teams complètement différentes qui m'ont nourri différemment. Mais c'est vrai que les chansons de Michel Paul Naref, moi, ça me sidère encore aujourd'hui. À chaque fois que j'écoute, genre, j'ai la même émotion comme Barbara et comme beaucoup d'anciens qui sont assez incroyables.
Pour autant, vos inspirations sont nettement du côté de la folk américaine, parfois même de la country. Vous connaissez le groupe préféré de Samuel Blumenfeld, Undisputed Truth?
Non, je ne connais pas. C'est de la country?
Ah non, vraiment pas. Non, pas du tout. Non, moi, je ne suis pas du tout country. C'est urbain, assez urbain, vraiment. Mais non, mais là, vous ne pouvez pas continuer de vivre sans connaître Undisputed Truth. Là, il y a une erreur à réparer. On passe sa vie à réparer des erreurs.
Hein. Attendez, mais je vous en fais écouter alors. Quelques mesures. Écoutez Undisputed Truth.
Allons-y. Jazz.
Ah non, non, c'est de la soul. Bon, ça vous plaît?
Ouais.
Vous allez vous y mettre?
Bah non.
Désespérément pour moi, Samuel.
Pomme, vous venez nous présenter Les Failles, votre nouvel album, un album conçu comme une thérapie, dites-vous. Quel genre de traitement est-ce que ça a été?
Ben, en fait, j'ai un espèce de problème de... anxiété de performance, ça s'appelle en fait, c'est un truc de vouloir tout le temps être un peu sans faille justement, être un peu parfaite alors que c'est complètement impossible et dans tout ce que je fais en fait, je me mets une pression assez intersidérale et du coup cet album il s'appelle Les Failles et je me suis appliquée à parler que de choses qui marchent pas en fait justement parce que je voulais essayer de trouver ça cool et donc voilà, c'est chaque chanson on parle d'une faille ou d'un truc qui ne marche pas dans l'être humain ou dans l'humanité en général. Je pense que ça m'a aidé à... En fait, de le sortir et de l'assumer, clairement, ça m'aide à moi-même essayer d'être moins folle.
Sur la pochette de votre premier album, c'est vous avec des scarabées qui couvrent votre visage, un insecte qui vous définit assez bien, dites-vous, parce qu'on peut l'écrabouiller en quelques secondes et en même temps, il peut porter 8 fois son poids sur sa carapace. Mmh. Vous aimez l'ambivalence entre puissance et vulnérabilité?
Bah ouais, je trouve que ça nous définit bien, nous les humains, et je pense que souvent on se croit plus fort que ce qu'on est. Et en plus, c'est marrant parce que le terme ambivalence... est assez important même sur ce deuxième album parce que l'artiste qui a fait toutes les illustrations dont celle de la pochette s'appelle Ambivalently Yours. Donc il y a ce truc là qui est en tout cas je pense que même globalement il y a de l'ambivalence dans tout, dans les émotions, et que souvent on aimerait que ce soit tout blanc ou tout noir mais que c'est souvent un peu gris, et donc je pense que l'ambivalence c'est un truc important.
Samuel, vous pourriez vous comparer vous-même à un scarabée?
Du tout, pas du tout. Du tout.
Je crois que irréconciliable.
Vous choisiriez quoi comme animal totem, vous par exemple?
Aucun animal, je n'aime pas du tout.
Il n'aime pas les animaux.
Non, du tout.
Préféré une
destinée de
truffe.
Ah, largement.
Il y a un mur entre nous, en fait.
Revenons à la pochette de votre nouvel album, Les Failles. Cette fois, vous le disiez, il est dessiné, une jeune fille avec une frange qui me rappelle étrangement quelqu'un. Une frange et de grands yeux, dont l'un est muni de ce qui ressemble à deux pupilles. Quelle en est la signification?
Alors, c'est un peu la signature de cette illustratrice qui s'appelle donc Ambivalently Yours et qui est une illustratrice anonyme, c'est-à-dire qu'elle a un Instagram mais personne ne sait qui c'est et elle se montre jamais. Et c'est sa signature et je pense que il y a ce truc moi qui me parle beaucoup justement d'ambivalence, d'avoir différentes visions et de voir pas seulement ce qu'on voit devant nos yeux mais d'autres choses aussi. Et je pense qu'il y a une dimension un petit peu spirituelle mais tranquillement spirituel, pas chamanique non plus, mais ouais, il y a ce truc-là de voir au-delà de ce qui est devant nos yeux et de regarder deux fois.
Ça s'appelle donc Failles.
Les Failles.
Les Failles, c'est votre deuxième album. Vous voyez la scène mythique de Pop-Pop, bah, allez.
C'est mon tour.
Allez, oui, c'est votre tour. Rendez-vous jusque devant le micro, attrapez votre guitare pendant que je meuble, que je raconte un peu ce qui
vous
se passe.
Vous meublez bien, patron.
Merci, Charline. Et pendant que Samuel Blumenfeld détaille la pochette du deuxième album de Pomme. Alors, dès que vous êtes prête, vous me faites un petit signe, ma chère Pomme. Je vous fais le pop de départ et c'est parti. Attention, 3, 2, 1.
Quand les lumières brûlent tout, que la nuit fière s'en fout,
défrayer. Je vois mon corps partout. Je le compare surtout. Et tu vas pas me croire. J'ai fait le même cauchemar. Je ne veux pas sortir. Je sais pas m'oublier. Et je sais pas danser. Je sais pas m'oublier. Je ne veux pas sortir.
Je sais pas danser, c'était Pop 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 sur la scène de Pop Pop Pop, la scène, cet extrait de son deuxième album Les Failles qui sort le 1er novembre. Voilà, c'est ici que s'atteignent les Athéniens. Merci Samuel Blumenfeld. Les derniers jours de Marlon Brando, c'est édité chez Stock et c'est un livre chaudement recommandé par Pop Pop Pop. Merci à l'équipe de Pop Pop Pop, bien évidemment, Ghislain Fontana à la réalisation, à la technique Jérémy Guillon et Arthur Le Breton, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet et Simon Restat, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka et Raphaël Harry, notre stagiaire. Demain dans Pop Pop Pop, Yvan Attal et Panayotis Pasco. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0, un Yeuve ou une Yeuvesse à la pointe, suivez-nous. Plutôt comme disent ceux qui font des tutos 5 fruits et légumes par jour sur YouTube. Abonnez-vous à notre podcast.
Attention à votre bridge.
Et suivez-nous sur les internets, comme disent les millennials, 3615 pop 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 sur Instagram et Twitter.